Nous nous trouvons sur le site de la fac des Deux Lions, l'université de sciences économiques, le bâtiment B, dans lequel se déroule le congrès 2026, congrès annuel de la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision. Nous avons donc un invité aujourd'hui. Il s'agit de Guillaume Joubert, qui est post-doctorant et qui nous fera demain une présentation sur l'avancée de ses travaux concernant les plannings hospitaliers, notamment en liaison directe avec le CHRU de Tours. Bonjour Guillaume.
Bonjour Bertrand.
Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez présenter votre parcours universitaire, puis de post-doctorant, et le domaine de recherche actuellement sur lequel vous travaillez?
Tout à fait. Alors, j'ai commencé par une thèse de doctorat en CIFRE, donc c'est-à-dire en convention industrielle de formation par la recherche, donc en entreprise avec SNCF Réseau et à l'Université de technologie de Compiègne au laboratoire eudiésique. Donc j'ai fait effectivement ma thèse donc, sur des problématiques liées au transport. Ensuite, j'ai enchaîné par un contrat de postdoc à Nantes sur donc des problématiques de transport routier cette fois-ci. Et puis, je suis arrivé donc, en postdoc à Tours, à l'Université de Tours, au laboratoire informatique fondamentale et appliquée de Tours, donc sur des problématiques de conception de planning hospitalier, donc mêlant l'équité, les préférences et la flexibilité.
En effet, les plannings hospitaliers, c'est un champ d'action particulièrement important pour la recherche opérationnelle, même s'il y a plein d'autres domaines comme l'industrie, comme l'éducation nationale ou autres. Mais aujourd'hui, il y a une actualité effectivement sur le planning hospitalier, puisque la recherche opérationnelle consiste à allouer des ressources compte tenu d'un univers très contraint. Et on sait qu'aujourd'hui, l'hôpital est très contraint et que les hôpitaux de plus en plus grands, en fait, ont des acteurs, des tâches à faire et des ressources qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, en quoi les techniques de la recherche opérationnelle, tant en modélisation qu'en résolution, sont adaptées à ce genre de grands problèmes qui vont construire des plannings, puisque la question, c'est de construire un planning dans toute cette jungle touffue de contraintes. Et on parlera après des critères, bien sûr, et de préférences.
Alors effectivement, la recherche opérationnelle aide depuis quelques dizaines d'années sur la conception de planning hospitalier. Il y a plusieurs donc, étapes de planification, comme vous l'évoquiez. Premièrement, donc, le dimensionnement des équipes, donc par rapport à la budgétisation que l'État peut allouer. Donc ça, c'est un problème stratégique où les équipes vont être dimensionnées. Et puis à partir de là, pour notre projet, l'idée c'est, en connaissant une composition d'équipe, comment on va pouvoir créer leur planning en respectant les contraintes de législation telles que les horaires de travail hebdomadaires, donc également sur des jours glissants, en respectant le bon nombre de repos également, des enchaînements qui ne sont pas possibles pour respecter également le repos quotidien de 11 à 12 heures selon les sites. Donc c'est vrai qu'il y a un grand nombre de contraintes à respecter. Souvent les cadres de santé ils vont utiliser des outils de type Excel. Ils sont experts en fait pour trouver des plannings qui conviennent pour leurs employés avec des années d'expérience. Et l'idée c'est que avec des outils d'optimisation, on va pouvoir essayer de leur suggérer des alternatives pour pouvoir trouver des plannings qui conviennent mieux aussi au personnel. Donc là, vous évoquiez les critères, donc notamment en tenant compte des préférences des professionnels de santé.
Mais en restant sur la modélisation, effectivement, ça veut dire qu'il y a tout un travail en amont de recueil, d'observation de l'organisation et puis de compilation de toutes les contraintes, notamment le droit du travail ou autre. Est-ce que vous travaillez avec dans cette phase de modélisation, au moins avec des spécialistes du domaine? Est-ce que l'aéro est finalement aide à être non pas transdisciplinaire, mais à dialoguer avec les autres disciplines comme la psychologie du travail ou d'autres?
Alors effectivement, dans le cadre de notre projet, c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Et donc nous sommes dans un consortium, c'est-à-dire une équipe de plusieurs équipes de recherche, donc aussi avec des laboratoires à Nantes et à Angers, dont un laboratoire de sciences d'économie, enfin de sciences de la gestion. Et donc c'est des personnes qui sont allées sur le terrain à la rencontre des cadres de santé sur les différents CHU et CHRU, donc de Nantes, d'Angers et de Tours, afin de comprendre comment les personnes perçoivent le travail et leur emploi du temps et comment sont construits ces plannings, de manière ensuite à comprendre comment la recherche opérationnelle, de par les modélisations qu'on va pouvoir mettre en place, peut rendre compte de ce qui est fait donc sur le terrain. Donc finalement, à quoi ressemble un bon planning, un planning acceptable pour une implémentation sur site.
Pour nos auditeurs et auditrices, un planning, ça ressemble à un emploi du temps, l'emploi du temps qu'on vous distribue en début d'année scolaire, hein, par exemple. Vous pouvez naturellement vous dire, chers auditeurs, auditrices, mais finalement, ce planning, comment est-ce qu'il a été construit, d'une part, mais le planning de mon école ou de ma salle de classe, il suffit d'un papier, d'un crayon, et puis ça roule, ou d'un bon logiciel Excel, d'un bon tableur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans une organisation plus vaste, je ne sais pas combien il y a d'agents dans les trois hôpitaux que vous avez concernés, et que plus le nombre d'agents augmente, plus en fait on a une explosion combinatoire du nombre de plannings possibles à mettre en place et dans lesquels il va falloir choisir. Est-ce que vous pourriez éveiller un petit peu nos auditeurs à cette notion d'explosion combinatoire?
Je vais essayer. Alors effectivement, en termes de planification, pour faire des plannings, il y a plusieurs grandes phases. Il y a une première phase qui est l'idée de constituer des roulements. Alors les roulements, ce sont des emplois du temps qui correspondent à savoir ce qu'on appelle quart de travail, donc créneau du matin par exemple, d'après-midi, de soir, va être affecté à chaque agent chaque jour. Donc ces décisions-là, elles vont devoir être prises sur 4 à 12 semaines. Et ensuite, une fois que ces roulements ils respectent toutes les contraintes en termes de repos, d'enchaînement, de jours de travail consécutifs minimal et maximal, donc d'interdiction de faire un soir puis d'un matin, donc toutes les contraintes légales sont respectées, ce roulement va ensuite être répliqué à l'année. Il faut aussi prendre en compte dans des étapes complémentaires les congés, les formations, toute demande de RTT. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que une fois que le planning il est implémenté donc de manière mensuelle, eh bien les agents ils ont aussi pour habitude de faire des échanges de gré à gré de leur créneau horaire. Et donc c'est l'innovation qu'on aimerait ajouter donc dans notre modélisation, c'est comment créer un planning qui soit d'une part correct au niveau de la législation, mais qui permettent des suggestions optimisées, qui permettent donc d'améliorer l'affectation des quarts de travail à tel ou tel agent en finalement simulant, en proposant ces échanges de gré à gré qui soient le plus utile possible du point de vue de leurs préférences.
Alors une approche naïve consisterait à dire le premier emploi du temps, est-ce qu'il me convient, est-ce qu'il ne me convient pas, je le raye. Le deuxième, est-ce qu'il ne convient pas, je le raye. Le troisième, mais avec combien vous avez dit qu'il y avait d'agents d'agents hospitaliers dans cette structure?
Alors effectivement, c'est une réponse auxquelles je n'avais pas encore répondu. On imagine plusieurs tailles de services, donc selon les CHU qu'on visite et les différentes spécialités, il y a parfois des petits services où il y a, on va dire, 2 à 3 personnes simultanément dans le service qui doivent être présents, donc tant le matin qu'en soirée. On peut arriver jusqu'à des services de plusieurs dizaines de personnes. donc on peut imaginer 20-30 personnes. Donc c'est vrai que pour des modélisations assez naïves qu'on peut faire et qu'on souhaite résoudre avec une solution sur l'étagère, comme on appelle un solver commercial, c'est possible de résoudre le problème pour des petites équipes, pour des roulements de, allez, on va dire 4 à 6 semaines. Si on veut effectivement résoudre le problème pour des plus grandes instances, donc c'est-à-dire des équipes de plus grand dimensionnement et pour des roulements allant jusqu'à 12 semaines, là on va avoir besoin d'algorithmes dédiés. Et donc c'est là que viennent les étapes complémentaires de notre travail. Une fois qu'on a une première modélisation qui peut être résolue par une solution sur l'étagère, on va ensuite réfléchir à des algorithmes qui permettent de trouver une solution en temps raisonnable. Car comme vous le dites, il y a une explosion combinatoire en termes de possibilités de planning. Il ne s'agit pas d'énumérer planning 1, est-ce qu'il va ou pas, de planning 2, planning 3. Il y en a effectivement un nombre souvent assez astronomique, et donc ces algorithmes ils vont permettre de trouver cette solution en temps raisonnable.
D'où l'importance effectivement de guider la recherche du meilleur planning par déjà des critères. Quels sont les critères qui permettent de désigner un bon planning ou pas ?
Alors, effectivement, ces critères, on essaie de les déterminer en allant sur le terrain. Donc, plusieurs visites qu'on a pu faire au CHU, tant à Bretonneau, à Trousseau, et rencontrer des cadres de santé. Et donc, ce qui est déterminant pour les cadres de santé, c'est de lisser ce qu'on appelle le surplus. Donc, si on a une maquette de besoins où on a besoin de tant de nombre de personnel pour des créneaux dans la journée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait pas une journée où on est à 3 ou 4 personnes en supplément par rapport à une journée où on est tout juste au niveau du besoin, on n'a personne en supplément. Et donc si on a besoin de prendre en compte des congés ou alors de faire face à des aléas comme des personnes qui seraient malades tel jour, c'est plus simple de faire en sorte qu'il y ait de répartir la charge de surplus qu'il pourrait y avoir sur les jours de la semaine. Donc ça c'est un premier critère qui est très important pour les cadres de santé. Donc ensuite,
la répartition,
oui, la répartition, le lissage du nombre de personnel sur les différents jours par rapport aux besoins.
Ça c'est un premier critère. Est-ce que vous avez des critères de coût, des critères de délai, des critères de bien-être, pourquoi pas?
Alors le critère de coût, nous on ne va pas spécialement le considérer parce que c'est une donnée qu'on prend en entrée, donc le coût pour l'hôpital finalement ça va correspondre au dimensionnement de l'équipe. Nous notre problème, on va considérer que le dimensionnement de l'équipe on le connaît, donc à partir de ça effectivement premier critère le lissage comme on le disait précédemment, et les critères complémentaires qu'on va prendre en compte c'est par rapport à la qualité de vie au travail, donc un bon équilibre entre vie pro et vie perso. On va tenir compte des préférences donc des professionnels de santé, donc s'ils ont une aversion ou une préférence à réaliser tel type de quart de travail ou créneau, par exemple le lundi ou le vendredi par rapport à leur vie personnelle, les différents professionnels ils vont pas avoir les mêmes goûts et les mêmes choix en termes de jours par rapport au type d'horaire, et on va essayer de faire en sorte que les plannings collent au mieux par rapport à leurs préférences tant que possible. Et vient ce critère complémentaire qu'on intègre sur la flexibilité, où en plus de ça on va donc permettre des suggestions d'échanges entre les professionnels sur certains créneaux de manière à encore accroître leur utilité donc par rapport à leurs préférences justement.
Donc on voit que le travail du chercheur opérationnel va être non pas de décider à la place des autres mais de lui permettre d'avoir une aide à la décision la meilleure possible, en tout cas en termes de suggestions. Il peut y avoir plusieurs suggestions suivant les critères qui ont été modélisés, et effectivement le regard du chercheur sur cette modélisation va aussi induire la qualité de la solution. Ça c'est pour l'aspect modélisation, et une fois que le modèle est établi, même s'il doit effectivement être adapté au fur et à mesure, je suppose, une fois que le modèle est établi, il y a la phase de résolution. Alors, les problèmes auxquels vous faites face, est-ce que juste un solver classique qu'on peut trouver sur Excel fonctionne, ou est-ce que vous êtes obligé de mettre en œuvre toute une série de stratégies qui font appel à des techniques mathématiques, à des techniques informatiques, à des techniques de gestion?
Alors, bien souvent, dans le domaine de la recherche opérationnelle, on va commencer à vouloir modéliser notre problème, effectivement, par des équations mathématiques qui correspondent aux différentes contraintes qui régissent notre problème. Donc là, par exemple, sur les emplois du temps, de manière à bien respecter toutes les contraintes légales. Et une fois qu'on a modéliser ce problème et qu'on a une solution donc sur l'étagère, donc comme un solver commercial qui va pouvoir permettre de le résoudre, on peut voir que il y a certaines limites en termes de taille de problème qu'on va pouvoir résoudre en termes de donc dimensionnement d'équipe et nombre de semaines de l'emploi du temps. Et c'est là en deuxième étape qu'on va apporter finalement un nouveau regard, où on va chercher des techniques algorithmiques de manière à trouver ces solutions en temps raisonnable, donc par exemple en quelques minutes, quelques heures, selon ce qui est souhaitable sur le terrain. C'est-à-dire que si on souhaite résoudre le problème avec parfois des solutions existantes commerciales sur des grandes équipes, telles quelles avec un modèle de programmation linéaire en nombre entier, on peut parfois ne pas trouver de solution. Même en quelques jours, il y a parfois une nécessité de rajouter des composantes algorithmiques.
C'est-à-dire que certains problèmes ont une telle nature et une telle dimension que trouver la meilleure solution au sens l'optimal unique prendrait autant de temps que l'univers. Il faudrait faire marcher l'ordinateur plusieurs années, même en supposant que les durées, les temps de fonctionnement des ordinateurs s'améliorent. Et puis, il faudrait aussi une armée de cartes mémoire pour faire ça. Donc, effectivement, le rôle du chercheur opérationnel, en recherche opérationnelle, ça va être de dessiner des algorithmes qui vont trouver des stratégies de recherche à l'intérieur de cette jungle pour éviter que l'ordinateur mette un an à trouver une solution qu'on attend pour une semaine.
Donc effectivement, des stratégies qu'on peut mettre en place, bien souvent, ça va être des techniques de décomposition. Nous, ce qu'on va faire, au lieu de considérer notre premier modèle de programmation linéaire en nombre entier, où chacune des variables de notre modèle, c'était savoir quel créneau allait travailler tel personnel pour tel jour, donc ça pouvait faire un grand nombre de variables, on va reformuler notre modèle de manière à ce que les variables, cette fois-ci, elles correspondent à un emploi du temps complet de plusieurs semaines pour un agent anonyme au début. On va générer donc un ensemble d'emplois du temps complet, et puis on va faire une affectation de ces emplois du temps complets aux différentes personnes. Et puis la décomposition se fait dans le sens où on a un problème auxiliaire qui va nous permettre de faire cette génération d'emplois du temps complet. Et donc là, on a des techniques qui nous permettent de déterminer est-ce qu'il existe, par rapport aux critères qu'on souhaite optimiser, donc la préférence, la flexibilité, est-ce qu'il va exister des plannings complémentaires que l'on n'aurait pas encore générés et qui nous permettraient d'améliorer notre optimum.
C'est une stratégie que vous avez simulée et elle donne des résultats espérés et attendus.
Alors, c'est des stratégies qui sont assez classiques dans la littérature scientifique, dans notre domaine. Nous, on aimerait adapter cette stratégie à notre problème qui est effectivement cyclique, où la fin des emplois du temps reboucle avec le début. Et en plus de ça, comme on est sur plusieurs critères, donc le lissage de la charge plus les préférences et les flexibilités, on aurait plusieurs itérations à cette technique-là. Pour l'instant, en termes de résultats de ce que je présenterai demain, nous sommes arrivés à des résultats expérimentaux, donc sur le modèle complet avant décomposition. On est en train de travailler sur la décomposition du problème et on a des premiers résultats sur la génération donc, d'emploi du temps. Mais effectivement, il nous reste encore du travail pour faire la connexion entre ces différents modèles dans notre étape de décomposition du problème afin d'obtenir des résultats plus rapides avec cette méthode sur laquelle on travaille.
Qu'est-ce que vous attendez? Si je comprends bien, vous allez donc présenter le résultat d'avancement de vos recherches à date. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle présentation, d'une telle confrontation avec vos pairs, d'un tel congrès de chercheurs?
Alors, effectivement, c'est toujours une bonne occasion de pouvoir présenter ces travaux. Donc, ça donne une possibilité de montrer l'avancement, de pouvoir récolter également quelques avis des pairs en termes de questions qui pourraient se poser. Et puis, ça permet déjà de présenter des résultats préliminaires que l'on a à partir de notre modélisation, également de présenter ce que l'on souhaite faire d'innovant par rapport à un problème qui est déjà étudié depuis plusieurs dizaines d'années, et donc l'aspect sur la flexibilité que l'on veut ajouter. Et puis la génération de colonnes, enfin finalement ces techniques de décomposition sur plusieurs étapes, donc en ajoutant ces différents aspects de modélisation. Et donc du coup ça permet de faire un jalon, un point d'étape et de fixer les perspectives de nos travaux pour les semaines à venir.
Alors avant qu'arrive nos invités suivants, je prends la balle au bond et je pose quelques questions additionnelles. À notre invité, donc vous avez expliqué que l'objectif, si j'ai bien écouté, c'était d'avoir des plannings dits acceptables. Donc j'aimerais savoir c'est quoi l'indicateur de performance.
Alors,
c'est qu'il n'y a pas d'arrêt maladie, c'est que les gens démissionnent pas, c'est quoi le...
C'est vrai qu'il y a un turnover à l'hôpital qui est assez important par rapport à la satisfaction du planning pour les personnels de santé. Et un planning acceptable d'un point de vue légal, effectivement, c'est un planning qui respecte les contraintes, donc en termes de temps de travail, donc, on les a cités plusieurs fois. L'idée donc, de notre projet, c'est aussi de permettre à ce que les plannings puissent au mieux contribuer au bien-être au travail pour les agents de santé, et notamment l'ajout de pratiques qui sont déjà utilisé sur le terrain, donc par rapport à cet échange de cartes de travail, de pouvoir le modéliser et de proposer ces suggestions qui, on espère, permettront donc d'améliorer la qualité de vie au travail pour ces agents.
Donc c'est-à-dire qu'on vise le bien-être ou on évite le mal-être ?
Alors ça, c'est une question plutôt philosophique. Je ne sais pas si je pourrais tellement y répondre, mais en tout cas, on essaye d'améliorer la situation actuelle où on pourrait proposer des plannings qui correspondraient, on espère, le plus possible aux attentes des personnels soignants.
Voilà, je pose cette question parce que Odile Bélanguez, qui est venue hier dans l'émission La Méridienne, nous a parlé d'éthique sur l'idée de, quand on est un chercheur en héros, quelle place on laisse à l'éthique. En fait, c'est-à-dire que des choses sont possibles, on peut optimiser davantage, mais on s'interdit de le faire pour des raisons éthiques, pour respecter le code du travail. Donc c'est pour ça aussi que je vous interpellais là-dessus, sur cette idée de l'éthique dans votre domaine de compétences.
Oui, c'est aussi pour ça que nous avons fait équipe avec une équipe donc de chercheurs en sciences de gestion, de manière à pouvoir vraiment qui s'immergent sur le terrain et discuter de toutes ces dimensions et de voir ensuite dans nos projets ce qui est possible de modéliser, ce pourquoi l'aéro ne va pas être utilisé, par exemple tout ce qui est remplacement de personnes suite à des aléas, on va dire en temps réel, donc le jour J. Donc ça, c'est pas vraiment une action sur laquelle on va proposer l'aide de la recherche opérationnelle, mais c'est plutôt donc d'un point de vue tactique la génération de ces plannings, mais qui reste effectivement tout à fait une suggestion. L'idée, c'est pas de prendre la main effectivement aussi sur le travail des cadres de santé.
Voilà, donc ça d'où ma question suivante, parce que vous précisez bien que l'idée, c'est pas de remplacer ou de prendre la main sur les cadres de santé, hein, parce que je pense que la confection de planning, ça les occupe beaucoup. Donc du coup, à votre avis, comment cet outil que vous allez leur mettre à disposition, leur proposer pour les aider en fait à faire ces plannings, à votre avis, comment ça peut changer le rapport des équipes à cette compétence spécifique au cadre, ou alors faire peut-être bouger un rapport hiérarchique ?
Alors, j'imagine que le niveau éventuel ou potentiel de conflit entre les équipes et leur cadre de santé, ça pourrait changer d'un service à l'autre, je ne sais pas si c'est la question. En tout cas, l'idée, c'est d'offrir au cadre de santé une interface sur laquelle ils pourraient générer leur planning en utilisant nos méthodes numériques, et également d'avoir une sorte de garantie de performance sur la préférence minimale que chaque personnel de santé pourrait obtenir par rapport au planning et aux différentes contraintes qui régissent la construction de ces plannings. Donc ça pourrait permettre de donner finalement une certaine légitimité complémentaire, peut-être par rapport aux gains que certains agents voudraient voir sur leur planning, et ce qui est possible mathématiquement d'obtenir comme performance générale pour l'ensemble des agents.
Donc là, si j'entends bien, en fait, ce qu'on peut dire aussi aux auditeurs, c'est que cet algorithme, ce travail que vous faites, ce sera efficient, efficace dans un service où les choses se passent bien. Ça veut dire que ça ne va pas résoudre des problèmes qui préexistent à votre intervention. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va donner cet outil de RO à un cadre dans un service où il y a des conflits que ça va faire disparaître les problèmes. Faut pas compter sur la RO pour ça.
J'imagine que tout dépend du type de conflit, mais si l'aéro peut permettre déjà de pouvoir offrir des suggestions de planning qui conviennent mieux aux éventuels employés hospitaliers pour lesquels il y aura quelques difficultés, ça peut permettre peut-être d'améliorer le dialogue entre cadre et personnel de santé. Après, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste des différents conflits qu'il pourrait y avoir exactement.
Eh bien, c'est pas grave, vous pourrez demander aux chercheurs concernés, hein, puisque vous travaillez en partenariat avec d'autres équipes. Et alors, peut-être une autre question pour vous. Donc, vous nous avez expliqué que vous avez travaillé avant pour la SNCF dans le domaine des transports, et donc là aussi HRU sur des plannings soignants. C'est quoi la différence principale que vous voyez entre des gestions de flux de transport et des plannings soignants ?
Alors, effectivement, on n'est pas sur le même, on va dire, domaine d'application. Néanmoins, les plannings de transport ferroviaire, il y a également un aspect humain, dans le sens où il y a des personnels roulants qui vont effectuer ces trajets. Et donc, bon, même si on peut voir l'objet train par rapport à des personnes plutôt en hôpital qui vont à des agents de santé comme des applications très différentes, finalement, il y a toujours un aspect humain pour lequel on peut essayer d'améliorer les choses. Voilà, c'est simplement des problèmes différents. Et le point commun, ça va être cet amour finalement pour la modélisation également, et trouver des solutions qui vont améliorer les choses au quotidien.
Une dernière question pour moi, parce qu'après je crois que les invités suivants vont peut-être attendre leur tour. Donc si je comprends bien, ça veut dire que peut-être que ce qui vous motive, ce qui vous intéresse, c'est de mettre votre compétence au service public, entre guillemets.
Je pense que c'est un bon résumé.
Voilà. Merci Bertrand, le mot de la fin.
Le mot de la fin, vous avez un échantillon, chers auditeurs, auditrices, de ce que la recherche opérationnelle peut faire pour aider à la décision, ce que mettre de la rationalité dans les problèmes auxquels nous sommes confrontés, même si l'homme n'est pas que rationnel, et en tenant compte de l'humain, justement, eh bien, le chercheur, et notamment le chercheur en recherche opérationnelle, peut, si c'est un parcours qui vous intéresse, mettre en œuvre ces choses-là. Et voilà.
Et alors, juste un truc. Qu'est-ce qui fait votre algorithme en cas d'année bissextile ?
Alors, effectivement, il y a plusieurs étapes, comme on le disait. La génération de roulement, donc sur 4 à 12 semaines. Et ensuite, il y a une étape complémentaire qui est comment on duplique ce roulement à l'année. Donc ça peut dépendre du nombre de jours, de quand est-ce que tombent également les jours fériés, par rapport aux demandes pour les vacances, pour les formations. Donc finalement, chaque année est différente pour différentes raisons. C'est une étape complémentaire du problème que nous, on cherche à résoudre, où on est vraiment sur les roulements de 4 à 12 semaines qui vont être affectés au personnel.